Exact.
Ben oui, mais je lui ai dit que c'était pas idéal que je sois là.
Ça a pas rapport avec le fait que t'es là,
Mais
Pierre.
faut assumer, ce sera jamais idéal que tu sois là tout le long. Peu
Je pense
importe
qu'on
l'épisode,
est
on
live.
va briser la glace.
Je pense qu'on est
Hein?
live.
Parfait. Tant mieux, il faut dire la vérité. Pierre, c'est inconfortable d'avoir sur l'équipe.
Ah, je pensais à la vérité, c'était qu'on était live.
J'en ai dit, t'es sadique. T'es masochiste, en fond, c'est ça?
Ok, fait que je me rappelle-tu de l'intro? Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, c'est le retour de Balado Ludique en live pour la première fois. Saison 13, épisode 1. Nous voici, nous voilà. Laissez-nous savoir si le son est bon. Et je suis en compagnie, bien entendu, d'Antoine, Vincent et Pierre, PPP7, la légende. Et je suis Simon et je suis bien content de vous retrouver ce soir pour la nouvelle formule de Balado Ludique. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, et je vais dire bonsoir aussi à nos spectateurs. En fait, on a
Oh,
des
la
spectateurs.
flèche, Danny Gosselin, Temple du Meeple, vous êtes là à l'appel.
Oh yes, hello mes belles noix de Grenoble.
Oh,
J'espère que vous allez bien.
Pierre est déjà découragé, son premier facepalm de l'épisode.
Ça commence en force. Non, mais Pierre, il est assez sensible maintenant. Là, quand on est en live, là, il aime moins ça.
Ouais, mais dites-vous, comme j'ai écrit en fait sur Facebook, dites-vous, ça peut pas être pire que Martin Matt en direct.
Ah, c'est
Je
pas pire. Ça, c'est une belle analogie.
sais pas. Je sais que t'as pas la différence entre Martin Matt en direct et avoir Vincent Beaulac en direct.
Ben, c'est pas Vincent qui lead, fait qu'on est correct.
Les
Non,
gars, je veux juste vous ramener à l'ordre, là, puis ça fait 20 minutes que vous chiolez. Mais là, 30 minutes, c'est pas assez. 30 minutes, c'est pas assez.
c'est
Puis
ça.
là,
C'est
vous
ça.
êtes là en train de m'émérer alors qu'on est en direct. Alors, c'est parti. Je vous invite à prendre vos scripts en main et à commencer.
Merci.
Saison 13 de Balado Ludique, c'est quoi cette chose? C'est quoi la saison 13? Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de saison. Et c'est parce que, oh, salut Jamie, c'est parce qu'on veut rester pertinent dans le milieu. On veut pas faire n'importe quoi. Ça fait des mois qu'on est comme, qu'est-ce qu'on va faire avec la saison de Balado Ludique? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On veut rester, vous savez, significatif dans la chose. Donc, on a décidé de revenir pour seulement 30 minutes par semaine. C'était notre réflexion pour rester pertinent. 4-5 personnes, 30 minutes. On s'est dit que ça pouvait bien se faire. Donc, on est là, on est prêt. Et premier épisode, rétrospective 2023. On s'étalera pas plus là, sur qu'est-ce qui va se passer dans les autres épisodes et tout ça. On est content que vous soyez là, on est content d'être là. C'est parti. Rétrospective 2023, c'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. Et je lance directement la balle à Antoine pour qu'il nous commence ça.
Mais
Oh,
avant, attends un peu. Faut t'oublier de dire smash that like button, puis fais la cloche.
fais la
Voilà.
cloche,
Faisais ça la
abonne-toi.
cloche,
Hey, vous voyez comment je suis pas un
abonne-toi.
YouTuber célèbre, hein? Abonne-toi, sonne la cloche, partage ça sur Reddit et sur 4chan avec tes meilleurs amis. Et si ta grand-mère
Fortune.
aime les grosses carottes, eh bien Antoine a des sales doigts, laissez-moi vous le dire.
Ah, je les ai lavés tantôt.
Ah, ok, parfait. C'est parti.
Fait que ma rétrospective de 2023, moi, en fait, bon, évidemment, on ne peut pas passer sous silence la sortie de mon jeu qui est derrière Simon. Je vais en parler vite, vite, parce que je pense qu'on a entendu parler assez. Simon moi-même m'a fait la belle surprise sur la chaîne du Prof Board Game aujourd'hui. En fait, ce jeu-là, ça fait quand même 2 ans que je travaillais dessus, donc c'est mon premier jeu, mon petit bébé et une fierté. J'ai encore pas, je suis encore pas atterri là. Je suis encore en train de voler là, parce que
Bravo, bravo Antoine.
j'ai vraiment des bons commentaires, une belle réception, c'est wow. Fait que je
Ouais.
sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, puis ça c'est tout à fait correct. Mais j'ai vraiment eu des beaux mots et des beaux commentaires de beaucoup de monde.
Ouais, tu peux être fier.
Ouais, puis
Ah oui,
ça
en
m'a
plus.
permis d'aller à SN. En fait, ça a été le plus gros le plus gros plaisir que j'ai eu en fait avec Remy Rémy, l'invitation de Randolph à SN, que je remercie quand même. Et ça m'a permis d'aller chercher en fait à SN, entre mes petites démonstrations, j'étais allé chercher des jeux d'un peu partout, surtout d'Asie en fait. C'est ma nouvelle passion en fait depuis cette année. Là, je me suis pitché dans les jeux asiatiques à n'en plus finir. Oui, celui-là, en fait,
J'en
bon,
montre en même temps
Nanatori
que tu vas en
Dory,
parler.
bon, Loser's
J'ai pas ma
Rights, Planetopia,
copie
j'ai
d'Harvest.
ici.
Ah non, c'est vrai,
Ah
je l'ai
ouais,
vendu.
flash-les.
J'ai
Flash-les vos jeux.
Harvest que j'ai parlé
Flash-les.
beaucoup. J'ai Bomb the Dragon que j'ai vraiment
Des petits
aimé.
jeux minimalistes asiatiques, principalement japonais.
Ouais, attends un peu,
As
attends un peu. Je te coupe là-dessus, le minimaliste. Wait a minute. Le Christy jeu qu'on a joué avec le lapin qu'il faut tourner à l'envers. Puis les. M'excuse là, mais c'est pas minimaliste.
Ça, c'est
Pass.
vrai que c'était un. Y a des trucs un peu plus indie, hein, comme on dit, des trucs un peu plus indépendants. Ça arrive des fois. Ouais. Ça a l'air très
Ça,
cool, mais laissez-moi vous dire, c'est terrible ce jeu.
c'est pas terrible, il y a juste beaucoup d'étapes, c'est très procédural en fait, mais effectivement, c'est un peu étrange.
Un peu
C'est un genre
complexe
de
et
liberté.
alambiqué.
Oui, c'est un Libertalia qui se veut simplifier, mais qui est plus compliqué, en fait. Donc, avec une thématique de petit chaperon rouge. Mais bon, c'est quand même cute. L'idée est intéressante,
Mais il y
mais
a une
l'exécution.
mécanique là-dedans et tu sais, moi, vous savez, ce qui m'intéresse de parler, c'est de mécanique de jeu, de design et tout. Et il y a une mécanique là-dedans que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est que tout le monde va jouer des cartes, ok, avec puis les cartes vont se mettre dans un certain ordre et en fonction de l'ordre dans lequel les cartes sont positionnées, il y aura bon certains événements qui vont se produire. Mais il y a une espèce de côté narratif. Caché, ben caché, plus ou moins caché dans ce jeu, c'est que certaines cartes dans certains ordres vont vraiment créer une espèce d'histoire. Donc, quand les cartes tombent dans le bon ordre, on est capable de voir vraiment ben, l'histoire se dérouler devant nos yeux. Le reste du temps, il ne se passe pas grand-chose, puis c'est complètement aléatoire. Mais quand ça se produit, tu es comme, ah, il y a quelque chose de bien là, qui s'est passé.
Oui,
Puis
effectivement,
juste.
quand on joue en fait le petit chaperon rouge ou le chasseur, s'ils se retrouvent dans la forêt, ils ont des bonus. S'ils sont attaqués en fait par le méchant loup, ben, à ce moment-là, ils sont capables de se défendre, mais pas les autres personnages. Donc, il y a vraiment effectivement une belle asymétrie, mais c'est très, très. C'est ça. C'est trop complexe pour le peu de matériel puis le peu de stock qu'il y a. Dans le style sélection d'action, sélection de joueurs, en fait, il y a.
Parenthèse, excuse, je te coupe Antoine parce que vous n'avez pas dit le nom du jeu, ce serait quand même pertinent. Il s'appelle le Roux Eugene.
Ouais, c'est Ryujin, en fait, c'est un petit jeu taïwanais, si je me
Roux-Eugène.
souviens
C'est qui
bien.
le professionnel
Ah non,
ici,
c'est
hein,
japonais
finalement?
celui-là.
C'est Vincent Beaulac, le
Ouais.
professionnel de YouTube et tout ça. Il met ça dans la description, il met ça partout.
Mais à la
Bien
place,
fait.
si vous aimez les jeux de sélection d'action avec des justement mettre en ordre et tout ça à la Libertalia, Valbara pour moi était quand même une belle petite surprise assez intéressante à ce niveau-là. Mais c'est un Libertaria vraiment simplifié avec du set collection et tout. Donc une belle petite trouvaille que j'ai faite. Mais sinon, dans les jeux japonais, écoutez, depuis la sortie de Scout, qui a fait un méga buzz en fait en Europe, donc qui a même été nommé pour le Spiel en 2021, 2022, je ne sais plus trop. Depuis ce temps-là, en fait, on en voit partout des jeux japonais de levée. On a Nine Lives qui est sorti, il y a Cat in the Box qui est sorti. Ghost of Christmas, on a Trio aussi, qui n'est pas un jeu de levée, mais qui est un autre jeu japonais, qui a fait un énorme buzz en France, en fait, là, qui devrait être nominé pour l'As d'Or. Et si, ça, c'est s'il ne gagne pas, en fait, parce que d'après moi, il y a de fortes chances de le gagner, l'As d'Or familial. On parle d'au-dessus de 60 000 copies de vendues en 3 mois, donc c'est quand même énorme. Comme jeu. Donc, c'est ça, moi, j'ai comme développé une passion pour les petits jeux de cartes comme ça que je trouve le fun parce qu'ils sont compacts, souvent ils ont peu de règles. sauf Ryujin, évidemment, qu'on a parlé. Mais il y a aussi des jeux, il y a aussi des jeux en fait de Singapour, donc Mooncake Master, qui est vraiment un beau petit jeu de puzzle spatial. Où on va devoir en fait construire des petits gâteaux de lune là, à l'asiatique. Donc, vous avez comme des portions de gâteaux comme ça. Donc, vous allez construire quatre gâteaux, trois gâteaux chacun. Et les gâteaux vont donner des points dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont dessus. Mais vous avez aussi des clients que vous pouvez essayer d'aller satisfaire. Donc, eux autres qui ont des besoins très, très, très précis. Donc, c'est un beau petit jeu ultra compact. En fait, ce que j'aime bien, c'est cette tendance-là de cette compagnie, entre autres, et de d'autres compagnies aussi, de rapetisser les formats, rapetisser les boîtes. En fait, ce jeu-là était sorti en 2020, si je me souviens bien, puis il était dans une boîte à peu près de ce format-là.
Wow, quelle
Mais c'est
réduction, hein?
ça. Donc, on parle quand même d'un méga. Méga diminution, en fait. Au départ, c'était des tuiles. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va remplacer les tuiles par des cartes, tout simplement. Et ça fonctionne aussi bien. Ils ont enlevé le plateau de score, puis ils ont pas remplacé ça par, bon, ça, c'est le petit point négatif de ce jeu, la pire score track que j'ai jamais vue de ma vie. Donc, on a une score track qui est sur le côté de la boîte. Donc, ça tourne. Mais on a des petits jetons qui pointent vers le chiffre sur le côté de la boîte. Donc, on va avoir le score track comme ça, puis les jetons en bas ici qui vont pointer. Pourquoi ils n'ont pas mis les chiffres en bas plutôt que de les mettre en haut? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment probablement une des pires idées. Mais ça reste un excellent jeu. Donc, c'est ce que moi j'aime beaucoup, en fait, des jeux asiatiques, c'est qu'ils vont vraiment essayer de mettre le plus de jeux dans le plus petit packaging. C'est pas toujours le cas, là, mais dans ces cas-là, vraiment, vraiment très apprécié. Un autre
Ah, puis
petit jeu
ça.
intéressant, Wizard's Cup de Sage
Ouais,
and
on va
I.
laisser les autres personnes réagir. Là, t'es parti, t'es déjà dépassé ton 10 minutes, là.
Hey.
Fait que.
Mais moi, je veux juste te dire, je trouve que ça correspond vraiment bien avec ta plume, ta plume en tant qu'auteur ludique. Fait que c'est certain que ça fait du bien, c'est rafraîchissant aussi d'avoir des idées qui sortent vraiment de l'ordinaire, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on tourne beaucoup en rond dans les mêmes concepts. Fait que d'aller chercher des concepts différents, puis que tu aies en fait maintenant cet espace-là de création, Antoine. Moi, je pense que on va voir des belles boîtes, des belles idées qui vont sortir de ta tête, comme de ton crâne qui vient luisant à la lumière.
Ouais, c'est pour ça
Il a
que
mis
mis
j'ai
sa tuque pour ça. Il a mis
j'ai
sa
mis la
tuque
belle
pour
tuque
ça.
de l'autobus, là. Je vais faire de la pub en plus, là.
Ouais. Je sais qu'on pourrait continuer de parler des petits jeux minimalistes asiatiques pendant au moins 30 minutes. Fait qu'on va garder ça pour un autre. Ou en tout cas, si vous voulez rebondir là-dessus, allez-y. Mais juste qu'on ait au moins le temps de faire un petit tour de table avant que ce soit terminé. Fait que, ben Vincent, je te passe le flambeau.
Yes, en fait, moi, c'est 2023, l'année qui a tout changé. Hashtag clickbait, hashtag homme sandwich et compagnie. Mais blague à part, non. Écoute, 2023, ça n'a pas été une. Il s'est pas passé grand-chose. Mis à part que, ben, justement, je me suis carrément torché, solide, des nouveautés qui allaient sortir à SN. Là, je voyais Pierre là, qui bavait, là, puis que là, il était comme plein de nouvelles tortillas à SN, comme d'habitude. Puis moi, j'étais comme, mais Pierre, j'ai pas besoin de nouvelles sorties. J'ai besoin, moi, juste d'avoir du fun, puis de jouer à des jeux qui sont bons. Pas d'espérer que le jeu soit bon. Puis, fait que je me suis beaucoup, en fait, lancé dans exploration ludique, encore une fois, cette année. Puis je suis jamais déçu. On dirait que justement, plus j'explore, puis plus je réalise que les bons jeux sont, les très très bons jeux sont en arrière de nous. Oui, il y en a des très très bons qui sortent encore aujourd'hui, oui. Mais je pense qu'on tombe vraiment de plus en plus dans une structure très 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 rigide dans le jeu, alors
Mais juste
qu'avant.
là-dessus, tu penses pas plutôt que tu sais, ça prend un certain temps comme établir un classique? Puis tu sais, les jeux qui sortent là, c'est vrai que tu peux pas savoir s'ils sont bons ou non, mais peut-être que
Ouais.
dans 7, 8, 9 ans, on va voir un jeu que tu connaissais pas en 2023 qui est sorti. T'es comme, oh shit, c'est sorti en 2023 ça, je le savais pas.
Probablement. Probablement. Mais ceci dit, j'ai quand même joué à des jeux de 2023, mais c'est principalement des grosses bébites qui sortaient justement du lot. Là, je pense notamment à John Company, pas John Company, excusez, Horseless Carriage. Je pense à Station Fall. Je pense aussi à. J'ai récemment là, sorti Waymore, qui est un gros, qui est comme le magnum opus de Mathias Kremer, qui est sublime. Donc, il y a plusieurs choses qui sortent du lot là, dans 2023, fine. Mais je pense que tu sais, les classiques, comme tu parles, ça fait en sorte que oui, on a une traque, on la suit, mais moi, je suis tout le temps en dehors de la traque. Fait que ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est dans la traque puis les fameux classiques, c'est ce qui est à l'extérieur, puis comment est-ce que ces jeux-là viennent être éclectiques puis dynamiques. Fait que voilà, mais sinon, autrement, ça m'a permis aussi, en fait, de rencontrer des gens. Je suis vraiment tombé dans une grosse recherche là, ludique, là. Poulpine, je me suis lancé, puis j'ai cherché plein de jeux qui étaient de plein d'acabis. J'ai passé des heures et des heures sur Board Game Geek. Fait qu'au lieu de passer 5 heures à scroller des images de Ark Nova, puis de Earth, puis tout ça, quoique Earth était très très bon, tu sais, ou que Ark Nova c'est pas mauvais, mais tu sais, on voit les mêmes affaires tout le temps. Mais là, moi, je passais du temps à aller sur Board Game Geek, de regarder les ratings, puis d'aller voir c'est quoi le top 10 de ces gens-là, puis là, que ça m'amène à un jeu qui m'amène à un autre jeu, parce que là, c'est comme la section People Also Like, là, ainsi de suite. Puis ça fait en sorte que, à un moment donné, tu contactes des gens en ligne, tu rencontres des gens qui vendent ces jeux-là pour pas cher. Et même ici au Québec, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui ont décidé de me faire une fleur, là, dans le sens parce qu'ils savaient que je me pitchais dans de l'archéologie. Fait qu'ils ont dit, ben, regarde, on te vend des gros lots de jeux, mettons une quinzaine de jeux pour 100$. Puis là, t'es comme, wow, OK. Fait que là, tu t'en vas chercher ça, puis là, t'y connais pas trop. Puis là, une année, tu commences à découvrir une boîte après l'autre. Puis là, tu fais, ah, tu sais, ce jeu-là, pas tant hot, mais écoute, je vais leur vendre, je le revends, tant mieux. Mais sinon, là, tu découvres tranquillement là, des joyaux, des belles petites perles là-dedans. Puis finalement, ben, tu connectes avec ces gens-là parce que tu sais, ces gens-là ont cet intérêt-là envers ces jeux. Ça fait longtemps que ça traîne dans leur bibliothèque, puis des fois, ils sont comme, ben, je le sors plus, fait que je vais m'en départir. Puis ils ont envie que ce soit quelqu'un qui veut les jouer, pas quelqu'un qui veut les revendre sur Internet après. Fait que tu sais, ça crée le lien où est-ce que, hey, ce jeu-là, là, c'était vraiment bon, j'ai joué 50 parties, mais là, j'ai plus le crowd ou peu importe. Puis aussi, ben, ça permet juste de se lancer, tu sais, de se lancer, en fait, dans des méga ludothèques. Comme là, je vous donne un exemple, là, dans le mois de janvier, on s'en va voir, en fait, une personne qui a perdu des capacités, en fait, cognitives. Donc, elle ne peut plus jouer à des jeux de société. Puis moi, puis un ami, on a décidé de se rendre chez elle dans le mois de janvier pour aller discuter avec elle, aller voir sa collection, voir s'il y a des choses qui nous intéressent, mais aussi juste passer du temps avec elle. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que je retrouve de plus en plus dans le jeu de société. C'est le fait que quand tu commences à chercher puis, tu sais, vraiment creuser, ben là, soudainement, tu vois des gens qui ont le même spark que toi, ont la même étincelle. Puis là, tu veux partager cette étincelle-là aux autres. Puis des fois, tu arrives avec tes boîtes un petit peu bric-à-brac, vieillotte, qui pue, qui a de la cendre d'un boîte. Là, tu sais, ça sent la boulanite. Là, tu sors le jeu sur la table. Puis là, finalement, des cubes de couleurs vraiment drabe, soudainement deviennent tellement importants autour de la Terre, puis ça devient tellement comme un élément sensible que là, tu vois des gens clasher, puis là, c'est là que tu crées des liens, des relations. Fait que ça a vraiment été une année où est-ce que j'ai créé des liens en profondeur, puis que, ironiquement, en étant pas sur Facebook, en étant pas nécessairement super actif sur les réseaux sociaux, mais c'est là que j'ai eu l'impression que j'ai eu le plus le rôle d'influenceur, parce que soudainement, il y a plein de gens qui ont commencé à chercher l'ONERTS, par exemple. J'ai vraiment je savais pas, mais j'ai comme créé un buzz dans un
Comment tu dis
espèce de
ça,
podcast.
Lowenhertz?
L'ONERTS. Fait que je te le sors tout de suite dans le
Lowenhrz.
Exactement. Puis j'en ai parlé sur un Discord d'un podcast qui s'appelle Dads on a Map. Puis ça l'a comme pogné en feu. Puis là, tout le monde se cherche une copie. Plus ironiquement, Monsieur Labrèche, qui est dans les visionneurs de ce soir, m'envoie une photo avec une personne qui vend son lot à net 250$. Fait que j'aime me flatter dans le sens du poil en me disant c'est peut-être moi qui ai créé cette hype-là puis
Rêve
cette
toujours,
valeur-là.
Vincent.
Ben, j'ai le droit de rêver, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, je rêve tout le temps.
Ah, ça c'est beau, c'est bien, ça complète bien
Mais
la chose.
je dois avouer, Vincent, que j'ai quelques bons moments que j'ai passé avec toi à tester des vieilleries que tu m'as fait découvrir cette année. Je pense à Palast Giflustar,
Ah
entre autres,
oui,
qu'on a eu du
Palace.
plaisir, du gros fun noir au jab, tellement c'est un jeu totalement débalancé dans le sens, en fait, tout le monde va gagner ou presque dans ce jeu-là. Ça, je pense que on était 6, je pense qu'il y a eu 4 gagnants, là. Mais c'est pas grave parce qu'on a eu tellement de plaisir à s'envoyer promener puis de se faire chier. Écoute, c'était vraiment ça a été du gros fun noir. À Noël, quand on a joué à Pizarro & Co, écoute, ça a été mon coup de cœur du mois aussi. Parce que j'ai vraiment, vraiment
Aussi connu
apprécié
sous
ce
le nom de
jeu.
Magellan pour les
Ouais.
experts.
Ouais, mais je c'est la version allemande. Pizarro & Co était la version française ou anglaise. Il me semble qu'il y en a un autre aussi que tu m'as fait découvrir que j'ai vraiment apprécié. Mais oui, tu m'as fait découvrir des beaux trucs, en fait, cette année, Vincent.
Puis, soit dit en passant, puis petite parenthèse justement, ce que tu te rends compte aussi, c'est que les rééditions qui sont actuelles, c'est comme là on parlait de Palast, puis la nouvelle édition vient carrément perdre l'essence ludique, là, vraiment le plaisir que tu peux avoir. Puis j'ai comme carrément, moi ça me fait flabber. C'est quoi toi, ah, ok, c'est la nouvelle édition, là, justement.
Venturesome, pour ceux qui se
Ou
le
par
demandent.
exemple, sérieusement, elle est beaucoup plus belle que l'ancienne. L'ancienne édition, elle est horrible, en fait.
Mais si elle est pas
Cette
bonne, ça vaut
version-là,
rien.
ils ont enlevé beaucoup, en fait, toute la tension, presque, du jeu.
Mais c'est sûr que les jeux maintenant sont un peu plus aseptisés qu'ils pouvaient l'être avant. T'sais, avant, l'équilibrage du jeu n'était pas nécessairement le fondement principal, mais la tension est vraiment palpable. Alors que là, maintenant, c'est comme. Faut que ça soit juste et égal pour tous.
Ouais, mais en fait, si je veux revenir rapidement avec les jeux asiatiques, ce que je trouve le fun, moi, là-dedans, autant que Vincent il aime découvrir les vieux jeux, en fait, c'est que je trouve que les Asiatiques, on dirait qu'ils sont pas encore rendus justement au marché aseptisé, au marché uniforme et homogène. On dirait qu'ils sont encore dans la phase exploration. Dans le design de jeu. Donc, ils essayent des nouvelles affaires, ils essayent n'importe quoi. C'est pour ça aussi qu'en fait, il y a plusieurs petits auteurs là, qui vont faire des prints de 200 copies, 500 copies. Ils font ça eux-mêmes, ils passent pas nécessairement par des éditeurs, c'est vraiment du indie au bout.
Le vrai indie
Mais
comme
ce
on
que
le
je...
connaît pas ici, là, tu sais,
Non, c'est
le
ça.
vrai
Eux autres,
indie,
c'est
là.
vraiment, sont dans le indie board gaming, comme il y a du jeu vidéo indie. Mais ils sont beaucoup dans l'exploration encore. Donc, mélanger des mécaniques, mélanger, faire des trucs vraiment penser en dehors de la boîte, comme on peut dire. Là, j'ai un exemple si rapide de Nirvana. Nirvana, qui est un mix de roll and write avec un jeu d'effeuillage.
Ça sent
Donc,
l'esprit d'adolescent, ça, Nirvana.
c'est. Écoute, c'est vraiment un mix que sur papier, tu dis ça marche pas, mais ça marche très bien, en
Ça
fait.
marchait très, très bien. C'était Smells
Ouais.
like Teen Spirit. Puis, tu sais, un autre point, puis si je peux me permettre aussi un dernier point, tu sais, c'est que ces jeux-là, ils ne coûtent pas cher non plus. Ils ne coûtent pas cher à produire, puis ils ne coûtent pas cher à acheter, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool, tu sais, de sortir avec une boîte de I'm the Boss à la foire du jeu de Longueuil pour 5$, que c'est du gros n'importe quoi, puis qu'on fait juste s'envoyer promener, mais que Christy, c'est drôle, c'est le fun, puis après ça, tu fais comme qui a gagné, je sais pas, mais j'ai juste donné des coups de bâton à des genoux à Pierre tout le long. Ça me fait du bien, ça.
Ben justement,
C'est pas
Pierre.
important, quand tu te souviens pas, c'est qu'il gagne. Hein? C'est la preuve que le jeu. En fait, les mécaniques étaient pas importantes, mais c'est l'expérience qui a pris le bout.
Ouais, ben j'en profite pour justement passer le ballon à Pierre. Pierre qui s'est joint à nous là, quelques secondes avant le début de l'enregistrement. Fait que rétrospective 2023, Pierre, quelques petits mots pour le groupe.
Bon, d'abord, il faut que je corrige les affaires parce que. M. Beaulac a l'habitude de toujours dire les choses très vite. Faut souligner que Löwenherz, ça se prononce Löwenherz, et que M. Beaulac ne connaîtrait même pas ce jeu-là s'il n'y avait pas mis ça entre les mains dans une marque aux puces à longueur où il l'a acheté pour 10$ et puis il lui dit tu achètes ça, puis tu te la fermes, puis tu vas jouer à ça, puis tu vas aimer ça.
C'est vrai qu'il n'a aucunement mentionné ça, hein?
Non, j'ai pas mentionné.
Durant ses fouilles archéologiques et tout, il n'a jamais mentionné ce petit détail.
Ok, ouais. Pierre, c'est vrai que tu es... Ok, regarde, je vais te lancer une fleur, c'est le premier épisode, là, mais c'est le dernier, je vais faire ça aussi. Mais honnêtement, c'est vrai que chaque fois que je cherche des affaires weird, je me réfère toujours à toi parce que le pitch a de l'air up, puis finalement, quand tu me dis « Ouais, attends un peu, il y a telle affaire ou telle affaire qui est comme ambivalente. Puis ça, j'apprécie beaucoup ça de ta part, Pierre. Puis je trouve ça le fun qu'on ait ce lien-là, tu sais, que ce soit vraiment simple, puis que ce soit fluide, puis que justement, tu sois comme une encyclopédie qui raconte. Ça, là-dessus, je suis vraiment content de t'avoir
dans mon entourage.
Oui, définitivement.
Ouais, tu dis que t'as fait de l'archéologie. T'as fait de l'archéologie, Vincent, mais en fait, c'est Pierre qui était l'archéologue, puis toi, t'étais juste le petit grouillot à côté, Pierre te disait quoi faire.
C'est ça. Tu sais, l'assistant d'Indiana Jones, là, dans le Temple maudit.
On
là.
Va t'appeler Demi-Lune, maintenant.
C'est ça.
OK, on va repasser le ballon à Pierre, là, parce que sinon, on n'aura même pas le temps d'entendre son intro, là.
2023, pour moi, était une année de deuil. Parce que ça a été une année quand même que peut-être personne peut remarquer, mais trois grosses figures du monde des jeux de société sont mortes en 2023.
Oui.
Et c'est quand même... Ouais, la plus connue, évidemment, Klaus Teuber, qui est justement l'auteur de Löwenherz, mais aussi, surtout, l'auteur d'un certain jeu qui s'appelle Catan. Alors, pour plusieurs qui nous écoutent ici, peut-être qu'ils ne connaîtraient même pas les jeux de société auxquels ils jouent, si ce n'était pas à cause de M. Teuber, parce qu'il est à lui seul le responsable de la renaissance des jeux de société qui date maintenant de plus de 30 ans. En fait, presque 30 ans, je dirais. Maintenant, Teuber n'est pas le seul qui est mort. Il est mort quand même. Ils sont tous morts jeunes, d'ailleurs. Teuber est mort à 70 ans. La deuxième figure qui est morte, c'est un autre qui a vraiment laissé sa trace, qui a littéralement, lui, forgé un autre pan de l'industrie du jeu. Et là, on en a déjà parlé d'ailleurs en saison 10 de Ballon Ludique. Ce monsieur-là, c'est M. Brian Ansel. Un Britannique, et celui qui a co-créé, mais vraiment lancé l'idée à fond, de faire un jeu de société de combat avec des figurines de plomb, médiéval, fantastique. Donc, le co-créateur de Warhammer Fantasy Battle et de Warhammer 40 000. C'est en fait à Brian Ansel qu'on doit l'idée d'avoir lancé une entière frange du jeu de société centrée uniquement sur des figurines.
Ah, les miniatures, c'est énorme, hein? C'est une énorme part du jeu de société.
C'est énorme, certain. Il est devenu, à vrai dire, président de Games Workshop en 85, lorsqu'il a acheté ça de M. Jackson et M. Livingstone. Et il a déménagé le siège social de Londres à Nottingham. Et avec ça, il a créé ce qu'on appelle le lead belt en Angleterre. Lead belt, c'est la ceinture de plomb, clairement, pour faire référence à l'industrie des figurines de plomb qui était créée là, parce qu'il a parti, en fait, une industrie. C'est le lead belt à Nottingham, c'est un peu le Silicon Valley des figurines de plomb en Angleterre. Donc, c'est lui qui est responsable de ça. C'est une grosse figure qui est morte dans le monde du jeu de société pour l'Angleterre, avec M. Ansel. La troisième, c'est peut-être la plus importante dans mes yeux, parce que c'est aussi un ami personnel. C'est M. Serge Lager qui est mort. L'âge de 63 ans d'un cancer. Il a causé quand même une bonne commotion en début 2023, au février. Serge Lager est un auteur français que j'ai souvent comparé comme celui à qui je voudrais le plus ressembler si j'étais un auteur de jeux plus actif. parce qu'il pensait créer des jeux. Quand il créait des jeux, il pensait exactement de la même manière que je pensais créer des jeux. C'est-à-dire qu'il voulait que son jeu soit thématiquement réussi dans ses mécaniques, donc qu'il soit bien reflété dans ses mécaniques. Il y avait des thématiques, qui les mêmes thématiques que moi, auxquelles il pensait quand il faisait faire des jeux. Et il s'efforçait toujours d'aller chercher des choses qu'on n'avait pas vues dans d'autres jeux avant. Et les deux jeux, je pense, qui l'ont le plus, ont été le plus associés à lui, c'était Mare Nostrum, qui est sa refonte du classique de Trashum Civilization,
Absolument.
et qui est devenu assez populaire pour être réédité d'ailleurs il y a quelques temps maintenant. Et qui est une très grande réussite, je vous dirais, pour ce qu'il a voulu faire, parce qu'il a quand même travaillé 10 ans sur ce jeu-là. L'autre création, qui je dirais est encore plus importante, parce qu'elle aurait même pu figurer dans la saison 10 comme un des jeux les plus influençables des 50 dernières années. C'est les Chevaliers de Table Ronde. Chevaliers de Table Ronde, qui l'a co-créé avec Bruno Catala, mais qui l'a vraiment créé à la base tout seul. Il a été chercher les renforts avec Catala ensuite. Et
Cours
les
avec
Chevaliers de Table Ronde.
traite, hein, un truc
Ouais,
incroyable.
exactement. C'est ça. Les Chevaliers de Table Ronde, c'est le début des jeux coop avec traite. Il n'y aurait pas de Nemesis, il n'y aurait pas de Battlestar Galactica, il n'y aurait pas de Secret Hitler même, à la limite. Il n'y aurait pas ces jeux que vous connaissez, que vous jouez, qui sont tous des jeux coop, où à un moment donné, un traître peut se prononcer. Le premier jeu qui a fait ça dans l'industrie du jeu de société, c'est les Chevaliers de Table Ronde. Et il l'a fait même avant Pandémie. Pandémie, qui était finalement le jeu coop qui a vraiment standardisé les jeux coop ensuite dans l'industrie. Donc, chapeau à M. Laget pour avoir trouvé ça.
Bien, sur ces paroles, on va penser à ces
Oui.
grandes figures du jeu qui nous quittent et qui s'en vont. Je suis désolé, vous connaissez la règle, hein? On a déjà dépassé même le 30 minutes. C'était un plaisir de vous retrouver cette semaine, tout le monde à la maison. 30 minutes, ça passe très vite, mais le but, c'est qu'on retrouve la semaine prochaine et qu'on ait autant de choses pertinentes à dire. Alors, Antoine, Vincent, Pierre, merci beaucoup pour ce premier épisode de Balado Ludique saison 13.
Bon jouage!
Merci tout le monde d'avoir été là.
Ciao tout le monde.